Bonsoir. Je voudrais que nous fassions une lecture dans Apocalypse au chapitre 14, versets 9 à 12. Nous sommes là dans une époque terrible et voilà ce que Jésus dit à Jean. Un autre ange, le troisième, va à leur suite, donc il y en a d'autres qui sont venus, et il disait d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête, et son image, s'il reçoit la marque sur le front ou sur la main, s'il en reçoit la marque, lui aussi il boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera torturé par le feu et le soufre devant les anges saints et devant l'agneau. Et la fumée de ses tortures monte pour les siècles des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et son image. Quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici qu'on reconnaît la persévérance des saints, ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On doit persévérer dans la parole de Dieu, dans la foi de Jésus, ses commandements et toutes ces choses-là. On nous parle depuis quelque temps d'une puce que les gouvernements voudraient inoculer, injecter dans chaque personne. On nous dit que cette puce contiendra un résumé de notre identité, nos codes secrets, nos codes de... enfin, tout ce qui concerne nos maladies, etc., etc. On nous dit que c'est pour le bien, voilà. Et on nous dit aussi que c'est la marque de la bête et qu'il ne faut pas prendre ça. Ce sont les eschatologues qui nous disent ça. Je connais un eschatologue fameux, Pierre Gilbert, qui est un très bon eschatologue, mais ce n'est pas un prophète. Il le dit lui-même. Il dit « Je ne suis pas un prophète ». Or, la Bible dit que Dieu ne fait rien d'important sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. On trouve ça dans Amos, le prophète Amos. Alors, dans quelle position sommes-nous, nous, qui vivons dans un temps où il n'y a plus que des prophètes de pacotille qui nous annoncent qu'on va bientôt se marier, qu'on va bientôt voyager, qu'on va toucher de l'argent ou des âneries comme ça? Ce sont des prophètes faux, évidemment, dans l'église apostate. Mais pour nous qui sommes sortis de ces dénominations-là, nous avons un prophète majeur qui a donné son message et notre responsabilité est de veiller par rapport à ce message-là. Bon, certains diront oui, mais il est mort. Bon, c'est vrai, il est mort en 65, c'est vrai, mais Ésaïe aussi est mort, hein. Et vous lisez encore son message. Jérémie, Amos, Abdias, puis tiens, on vient de lire Jean, là, ben, ils sont tous morts, ces gens-là. C'est le message qui est important, vous voyez. Ce qu'on garde précieusement, c'est le message. Le prophète majeur a annoncé que la marque sur le front et sur la main, c'est de prendre sur soi la marque de la super-église mondiale qui est en train de se créer. Elle se crée sous nos yeux, mes frères et sœurs. Et je vais vous parler de cela un peu plus longuement ce soir. Ça va pas être simple. Sur le front et sur la main. Ou sur la main. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est le front et qu'est-ce que c'est la main. Alors, pour cela, c'est un mot français, donc on va pas les regarder dans un dictionnaire russe, on va regarder dans un dictionnaire français, là j'en ai un, c'est le Larousse. On va regarder ce que le dictionnaire Larousse dit au sujet du sens exact des mots employés par Jésus. Hein. Jésus ne parlait pas français, mais on a des traductions, puis voilà, c'est pareil. Jésus, quand il nous annonce Apocalypse 14, 9, au sujet du front. Le front, nous dit le dictionnaire, c'est la partie cérébrale située en avant du lobe pariétal et au-dessus du lobe temporal. Bon, vous savez où est le front, hein, grâce à ce que je viens de vous dire. Le front, il joue un rôle important dans la motricité, dans le langage, dans le comportement, dans l'humeur, dans les prises de décision. Hein. On choisit, on voit ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà. N'importe quel être humain, il sent très bien qu'il ne pense pas avec ses genoux. Ah si, vous pensez avec vos genoux, vous? Non. Alors, soyons sérieux. Chacun sent que ça se passe au niveau du front. D'accord? Alors, que nous dit Jésus? Que ceux qui accepteront une marque venant de la bête, une marque sur leur front, il dit, ils seront maudits. Ils seront maudits. Alors, écoutez bien. Parce qu'il y a autre chose. À l'époque où cela se produira, ce sera pendant la grande tribulation, il y aura des gens qui recevront un sceau sur leur front, mais un sceau venant de Dieu, là. On va lire Apocalypse 9 et au verset 4. Apocalypse 9, verset 4. Je vous fais la lecture. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à la verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes, ceux qui n'ont pas sur le front la marque du sceau de Dieu. La marque du sceau de Dieu. Ah, une marque du sceau de Dieu. C'est très embêtant ça, hein. Faudra pas se tromper. Il y a un sceau de Dieu, puis il y a un autre sceau. Ça va donc se produire sous le cinquième sceau d'Apocalypse, qui l'épouse sera déjà enlevée, et les chrétiens qui n'auront pas été enlevés devront avoir le sceau de Dieu sur leur front. Sinon, ben, ils auront des problèmes qui seront décrits dans ce chapitre. Alors, il ne faudra pas se tromper. Ce seront ceux qui, n'ayant pas été scellés dans leur pensée par l'Esprit de Dieu, qui seront trompés par l'ennemi de leur âme, par la bête et son image, et recevront de la bête cette marque à cause de leurs agissements passés. La bête voudra appliquer une marque. Dieu, lui, il appose la marque d'un sceau. Reprenons le dictionnaire. Une personne marquée, c'est une personne qui est engagée dans quelque chose ou qui est compromise à cause de ses agissements intérieurs. Elle est marquée. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un sceau ? Eh bien, d'après le dictionnaire, toujours, une personne scellée, c'est une personne qui est fermée et authentifiée. Si quelqu'un appose son sceau sur vous, vous êtes une personne authentifiée, pardon, si Dieu appose son sceau sur vous, vous êtes une personne authentifiée comme appartenant à Dieu et fermée aux intrusions externes qui chercheraient à dérober ce qui est en vous, le bon dépôt que Dieu a déposé en vous. Alors, revenons au texte d'Apocalypse 14. Les gens qui ne savent rien au sujet des forces qui s'opposent ici-bas, et pas seulement ici-bas, mais dans les lieux célestes, ils vont recevoir une marque. Quelle marque ? Celle de leur engagement envers une doctrine, envers un enseignement, envers une façon de penser. Ces gens-là, ils vont adhérer à l'Église mondiale. Maintenant, je vous rappelle que le mot « Église » signifie « assemblée ». À l'assemblée mondialiste, à l'Église mondiale. Et ils penseront mondialisation. Et leur comportement sera à l'inverse du comportement des gens qui sont scellés par Dieu. Alors, vous avez bien lu, la marque sera sur le front ou sur la main. Revenons au Larousse, la main. La main, c'est l'organe qui sert à donner, qui sert à recevoir, qui sert à exprimer quelque chose. La main, c'est aussi le symbole de l'aide. On tend la main à quelqu'un, on lui offre son aide. Elle est aussi le symbole de l'action, de l'effort. Elle est aussi le symbole du pouvoir, de l'autorité. La main est aussi le symbole des forces violentes. Quand on dit « il n'y va pas de main morte », La marque sur la main, alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la démonstration par l'action, par le comportement de la forme de pensée d'une personne. Commencez-vous à voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la marque de la bête. La bête est une puissance politique, financière et religieuse mondiale. Elle existe, elle est en train de mûrir là. Elle se fortifie en ce moment même. Et elle arrivera à maturité, et c'est quand nous aurons été enlevés à la rencontre du Seigneur, juste avant la Troisième Guerre mondiale qui se prépare. On peut lire 2 Thessaloniciens 2, 3, 11. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition. Vous voyez, le fils de la bête, comme Jésus est l'image du Dieu vivant, eh bien l'image de la bête, c'est justement l'incarnation, cet homme d'impiété, ce fils de perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer pour Dieu lui-même. Et il faudra bien que le temple à Jérusalem soit reconstruit pour qu'il puisse aller s'y asseoir. Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j'étais encore chez vous ? Il dit ça à ses amis thessaloniciens. Maintenant, vous savez ce qui le retient. de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui. Qu'est-ce qui retient ce personnage? Eh bien, c'est l'Église. Tant que nous sommes là, il ne peut pas vraiment agir. Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs. Si nous on parle, le Saint-Esprit s'en va. Et alors là, il pourra donner libre cours à toute sa méchanceté. Alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. La venue de l'impie, elle, se fera par la force de Satan, avec une grande puissance, des signes et des prodiges trompeurs, les gens seront séduits, et avec toute la séduction du mal pour que ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qu'ils auraient sauvé, ils vont être perdus parce qu'ils vont être trompés, on dira, il est merveilleux, il met de l'ordre sur la terre, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de problème, c'est fantastique. C'est pourquoi Dieu leur envoie une force d'égarement qui les fait croire au mensonge, ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. Voilà, ils sont complus dans le mal, ils veulent rien savoir au sujet de Jésus. Ils comprennent pas que les forces qui s'opposent là sont des forces spirituelles. Ils pensent que c'est la gauche et la droite. Voilà. La bête est une puissance politique, financière et religieuse mondiale. Et elle est en train d'arriver à maturité. Prendre la marque de la bête, ce sera adopter la forme de pensée et de comportement anti-Dieu, ce sera adopter la doctrine mondialiste basée sur la connaissance du bien et du mal uniquement. La Bible nous dit que à la fin du temps des nations, la connaissance augmentera. Nos nations ne sont plus que des caricatures de nations, nous sommes déjà dans la mondialisation, et la connaissance a bougrement augmenté depuis un peu plus de 100 ans, en même temps. Alors, pour nous, peuple du Seigneur, eh bien, notre connaissance augmente aussi. Selon Daniel 12:4, à la fin, la connaissance augmentera. Mais notre connaissance n'est pas la connaissance du bien et du mal. C'est pas la connaissance par rapport au bien et au mal. Bon, voyons un peu cela. À quel moment voyons-nous apparaître le mot connaissance dans la Bible? C'est dans Genèse 2:9. En tant que connaissance du bien et du mal. Nous savons que la Bible ne nous parle pas d'un fruit ou d'une pomme qui augmenterait nos facultés mentales, je ne sais trop comment, et stimulerait l'intelligence de la connaissance. Non, c'est le fait d'avoir désobéi à Dieu, de s'être rebellé contre Dieu. Voilà, quelque chose s'est produit en nous, il y a une communion avec un autre esprit, un esprit mauvais, qui nous a donné cette connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a directement à voir avec une faculté caractéristique du monde animal, la faculté du raisonnement chez nous autres, les humains. Et le serpent ancien, il possédait cette faculté. Il a raisonné avec Ève, il a discutaillé, il n'aurait pas dû écouter, il s'est fait avoir. Et il entra en réelle communion avec Ève, et il lui a ouvert la porte de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous le lien entre la connaissance du bien et du mal et la marque de la bête qui sera posée sur tous ceux qui ont un comportement uniquement sur la base de cette connaissance du bien et du mal et non sur la connaissance de qui est Dieu. 1 Jean 17:3. Qu'est-ce que nous dit 1 Jean 17:3? Jean 17:3 nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est une autre connaissance, c'est pas la connaissance du bien et du mal qui mène au paradis. C'est de connaître Dieu. C'est pas une doctrine. C'est une personne. Le fait même la doctrine chrétienne, c'est encore du bien et du mal. C'est la personne qu'on doit connaître, c'est Jésus qu'on doit connaître. Et tous les chrétiens se chicanent à coup de doctrine, parce que ça, c'est la connaissance du bien et du mal. Mais connaissent-ils la personne? C'est ça qui est important. Le fait de se comporter uniquement par rapport à la connaissance du bien et du mal, ça conduit à la mort. Genèse 2:17, et ça conduit à la mort. Voilà. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'ailleurs, si vous vous battez à coups de doctrine, et si vous basez votre vie sur la doctrine, voilà, ça c'est la bonne, puis ça c'est la mauvaise. Ah, encore, bien et mal, encore. Non, il faut connaître la personne. La marque sur le front et sur la main, ça n'est pas une puce, bien que... Quand, moi, je n'aime pas cette puce, hein, j'en veux pas. Mais, elle n'est pas la marque de la bête. La marque, c'est ce qui distingue ceux qui la portent, leur façon de penser, le front, et leur façon d'agir, la main. Ils pensent faire le bien, le pire. Ils pensent faire le bien. Et c'est peut-être pas mal humainement ce qu'ils font. Mais c'est mal, car c'est fait sans Dieu, sans respect pour le Créateur, et donc finalement sans respect pour la création. Et on le voit en fin de compte, tous ces gens qui créent, qui inventent, qui font toutes sortes de choses, ils le font pour le bien, et finalement ça finit toujours pour le mal. Vous avez remarqué? Alors je le redis, ceux qui portent cette marque sont ceux qui adorent la bête et son image. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 14, 9, 10. La bête, c'est le diable, et son image, c'est celui qui incarnera le diable. Comme Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu est unique et son image, c'est Jésus. Il est l'image du Dieu vivant. Colossiens 1, 15. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Jésus, quand il est venu sur cette terre, c'était l'image du Dieu vivant. L'image. Il y a un homme qui est né aujourd'hui, là, il est là, et il est l'incarnation du diable. Il va avoir bientôt le pouvoir de contrôler la destinée humaine. Il va bientôt prendre les rênes du pouvoir politique mondial, les rênes des finances mondiales, de la religion mondiale, avec son associé, le faux prophète, parce qu'ils sont deux. Apocalypse 19, 20, ils sont deux. Apocalypse 19, 20, hein, je vous le trouve. Alors, 19, 20, où est-ce que c'est là? Apocalypse 19, 20, et j'ai vu la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre aux cavaliers, son armée, la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète, lui qui, en produisant des signes devant elle, avait égaré ceux qui portent la marque de la bête et se prosternent devant son image. Ils furent jetés vivants, tous les deux, dans les temps de feu, embrasés de soufre. Les autres furent tués par le glaive, etc., etc., etc. Il y en a deux. On se trompe, il y en a deux. Il y a un pouvoir politique. Et financier, puis un pouvoir spirituel, le faux prophète. Alors, voilà ce que porte la majorité des gens de notre génération. Enfin, disons qu'ils se posent comme candidats à porter cette marque, la marque de la bête. Ils ont une forme de croyance qui est très peu portée sur Dieu, un petit peu sur la religion, voilà, pour les mariages, les enterrements, les baptêmes. Mais c'est sur le matériel. Leur forme de croyance est portée sur le matériel. Les religieux, ils focalisent sur leur doctrine. Ils jugent les doctrines, mal, bien. Et tous, selon leur conscience, qui croient être bonnes, mais qui sont encore conditionnés par la connaissance du bien et du mal. On n'en sort pas, c'est comme ça. Alors, ils s'excommunient entre eux, quand ils ne se massacrent pas au nom de la religion... En jugeant les autres comme des mécréants, etc. Ils pensent faire bien. Ils pensent même rendre un culte à Dieu en faisant ça. Vous voyez? C'est ça, la connaissance du bien et du mal. C'est là que ça conduit à la mort. Elle ne fait que cacher la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. C'est le Créateur. C'est pas une doctrine. La vérité, c'est pas une doctrine. La vérité, c'est une personne. C'est Jésus. Il a dit, je suis la vérité. Maintenant, Dieu nous donne un indice, le nombre 666, Apocalypse 13, 16. Il dit que c'est un nombre humain. Ce chiffre doit pouvoir être compris par toutes les langues de la terre et pas seulement par ceux qui connaissent le latin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chiffre de l'homme? Oh là là, je crois que je vais venir sur 666. Une autre fois, je crois qu'on va... J'ai déjà expliqué ça, les 666. On va venir sur Colossiens 1, 15, qui nous dit que Jésus, il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire qu'avant le commencement, eh bien, il y avait Dieu, et la première chose que Dieu a créée, c'est Jésus. Il a parlé, la parole. Jésus était esprit, n'est-ce pas? Jésus était esprit, et puis ensuite, il s'est fait chair, on l'a appelé la parole. Or, la parole, selon l'Écriture, on le sait, pour nous qui étudions le symbolisme biblique, on sait que c'est la parole. Tu nous as lavé par la parole, l'eau de la parole. Et maintenant, il vit en nous qui sommes de chair et de sang, ayant été rendus purs par le sang. C'est-à-dire notre vie, la vie est dans le sang, il a été rendu pur par le sang de l'agneau qui était pur lui-même. Alors on a donc les trois dont il est dit que les trois rendent témoignage. Un, l'esprit. Deux, l'eau. Trois, le sang. Alors on va lire 1 Jean 5, 7. Je vous le lis. Très édifiant, vous allez voir. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Alors, je ne sais pas si vous avez une bonne Bible, une Bible honnête. Là, dans ma Bible, il est écrit, dans certains manuscrits de la Vulgate, ils sont trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Verbe et l'Esprit. Et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là sont un. Moi, je me rappelle avoir eu une Bible autrefois, dans les années 1960, qui disait ça. Et puis, ils l'ont enlevé parce qu'ils se sont aperçus que c'était une doctrine qui avait un succès au XVIe siècle, et puis c'était des copies, ils avaient mis ça là-dedans. Vous voyez? Pour justifier leur sainte trinité. C'est qu'au XVIe siècle que les trinitaires ont trafiqué ce texte et l'ont traduit par « Il y en a trois qui rendent témoignage, le Père, le Verbe et l'Esprit. » C'est pas ça. Le texte dit « Il y en a trois qui rendent témoignage, c'est l'Esprit, l'eau et le sang. » Bon, Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. On trouve ça dans Romains 8, 29. Suivez-moi bien. Jésus est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. On l'a vu, Colossiens 1, 15. Vous me suivez? Et puis Jean 17, 11 qui nous dit « Et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, c'est-à-dire ses disciples, et moi, je viens à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Quel était le nom du Fils? C'est Jésus, hein? C'est garde-les en ton nom que tu m'as donné. Si Dieu, le Père, a donné à Jésus le nom de... à son fils le nom de Jésus, c'est que le Père sait Jésus. On a déjà expliqué 1000 fois ces choses. Et les trois rendent témoignage. Un, l'Esprit, premier-né de toute la création. Jésus était Esprit. Ensuite, la parole, Dieu fait chair. L'eau de la vie, l'eau de la parole qui purifie, qui est Dieu fait chair, Emmanuel. Et troisièmement, l'Église, celle qui garde son nom et qui est par la même un. Autant que Christ était un avec le Père quand il était ici-bas, nous sommes un avec le Père. Vous voulez une preuve biblique? L'Église, son Église, pas toutes les Églises, hein, l'Église de Jésus-Christ est appelée le corps de Christ. Et il en est la tête, le front. Et il nous est dit dans 1 Jean 4,17, tel il est dans ce monde, tel nous sommes aussi dans ce monde. Les trinitaires y croient en un Dieu, en trois personnes, personne. C'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas y croire, je n'y comprends rien. Nous croyons en un Dieu qui s'est manifesté en tant qu'esprit. Il s'est manifesté, c'est-à-dire dans la création. En tant qu'eau, la parole. Et en tant que sang purifié, en tant que vie purifiée, par le pur sang de l'agneau. Et cela, c'est la véritable Église de Jésus-Christ. Ne pas croire ça, ne pas se comporter en tant que tel, en ne se comportant pas selon la connaissance que nous avons de Dieu, pas d'une doctrine de Dieu, de qui est Dieu, eh bien c'est se mettre sur le chemin, c'est poser sa candidature pour recevoir la marque de la bête. Nous, ce que nous voulons sur notre front, c'est le sceau de Dieu. Pas la marque qui désigne une croyance ou un comportement basé sur la connaissance du bien et du mal. Pensez-y, mes frères et sœurs. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui était lui-même l'image du Père. afin qu'il fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Romains 8, 29. Un peu plus loin. Car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire la véritable Église, sont tous issus d'un seul, le Père. Et nous voilà à nouveau avec les trois. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Hébreux 2, 11, voilà les trois. Voilà la vraie Trinité. Maintenant, écoutez bien ça. Colossiens 1, 15 nous dit que Jésus est le premier-né. Cela signifie bien qu'il y a un dernier-né. C'est-à-dire une nouvelle création. Nous sommes cette nouvelle création en Jésus-Christ. Or, Jésus est tout, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Et 1 Jean 4, 17, je vous le disais tout à l'heure, affirme que tel il est dans le monde, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes l'image du Dieu vivant. Penser autrement mérite une marque. Penser et se comporter selon la vérité, c'est avoir le sceau de Dieu. Est-ce que vous voyez mieux maintenant? Écoutez bien ça. Jésus sur terre était l'Esprit de Dieu fait chair. Le corps de Jésus, c'était l'agneau du sacrifice pour nos péchés. C'est le corps qui est mort, mais en esprit, il a continué, il est allé prêcher encore dans le séjour des morts. Le nouveau corps de Christ, l'Église, n'est pas Dieu. C'est l'Esprit qui est dans ce corps, qui est dans l'Église, qui est Dieu. Ce corps, c'est juste l'Église, c'est juste l'image visible du Dieu invisible. L'Église, je répète, la véritable Église, je ne parle pas de toutes ces... de tous ces locaux plus ou moins beaux qu'on appelle l'Église, je parle de ceux qui sont véritablement l'épouse de Christ. Eh bien, ils sont l'image visible du Dieu invisible. Alors, de grâce, arrêtez de pleurnicher comme des trinitaires, de vous comporter comme des trinitaires, de vous manifester sur cette terre comme des gens marqués par la bête et par la bêtise. Comportez-vous comme des gens scellés, du moins, comportez-vous comme des gens candidat au scellement, vous avez été scellé par le Saint-Esprit, vous ne l'avez pas été, il faut que vous le soyez. Que vous soyez dans des difficultés, que vous soyez dans des moments de joie, de bonheur, gardez le bon dépôt qui est en vous sous le sceau. Fermez, empêchant l'ennemi de venir le voler. Voyez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la porte du diable. Souvenez-vous de Jésus quand il parlait à Pierre, un jour il dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont celles des hommes. Matthieu 16, 23. Vous voyez? Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez sur la branche du bien, de l'arbre de la connaissance, et vous aurez l'air d'un disciple de Jésus, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Vous êtes toujours sur la branche du bien, c'est bien. C'est mieux que d'être sur la branche du mal, mais c'est pas cela qu'il faut pour vous. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut pas croire que l'Esprit de notre Père Céleste peut habiter dans votre chair comme c'était le cas pour Jésus. L'Église, la véritable Église de Jésus-Christ, est la création visible du Dieu invisible, et Jésus en est le commencement. Il faut que vous vous souveniez de ça, mes frères et sœurs. Le serpent ancien, il avait des pattes, hein. Il était maudit. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu ses pattes, nous dit la Bible. C'est-à-dire qu'il est devenu un être rampant, qui se déplace sur le sol. Son cœur est près du sol. Vous connaissez l'expression « terre à terre » hein? C'était un être dont le cœur, et c'est toujours un être dont le cœur est porté vers les choses de la terre. Et même la Bible nous dit dans Genèse 3, 14 que c'est ça qu'il mange. Il mange les choses de la terre. Il vit que par rapport à la terre. Et ce qu'il vit, c'est ce qu'il devient. C'est quelque chose de terrestre, quelque chose d'éphémère. C'est la poussière des choses éphémères. C'est ce que les pécheurs sont devenus. C'est ce que l'homme pécheur est devenu. L'homme sans Dieu est devenu ça, un rampant. Ah, heureusement qu'il y a la sécu. Ah, les allocations. Ah, je vais pouvoir encore tricher un petit peu là, puis encore un petit peu ici, puis m'accouiller comme ci, puis voilà. Et c'est pourquoi toute la création La Bible nous dit toute la création. Les veaux, les vaches, les cochons, les montagnes, les étoiles, tout attend avec un ardent désir la révélation des véritables enfants de Dieu. Romains 8, 19. Parce qu'il y en a marre de ce monde rampant, de minable. Alors que dit la voix du tonnerre ce soir? Que dit la voix du tonnerre? L'épouse au complet, mes frères et sœurs, devrait pouvoir dire, moi et mon père, nous sommes un. Rendez témoignage de cela. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Si vous ne pouvez pas déclarer, en vérité, moi et mon père, nous sommes un, c'est que vous n'êtes pas prêt pour l'enlèvement. Il faut faire attention maintenant. Car en vérité, nous sommes vainqueurs et nous vaincrons à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage, Apocalypse 12, 1. Si vous ne pouvez pas dire cette parole, comme Jésus l'a dite, mon Père et moi nous sommes un, c'est qu'il y a quelque chose de dangereux dans votre vie. Vous avez laissé quelque chose de mauvais entrer en vous. Et c'est pourquoi ça ne va pas bien. Je dis pas ça va pas bien parce que vous êtes malade, ou ça va pas bien parce que vous avez des dettes, ou ça va pas bien parce que... Ça, c'est des impondérables, mais ça va pas bien dans votre esprit. Vous êtes partagé. Vous êtes divisé en vous-même. Vous n'êtes pas intègre, ce qui signifie que vous n'êtes pas entier. Alors, convertissez-vous, venez à Jésus. Soyez délivrés de cet esprit, de cette malédiction qui vous fait toujours marcher en avant ou en arrière, avec le bien et le mal et toutes ces histoires. Connaissez Dieu. Bien sûr que Dieu va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais si c'est Dieu qui vous dit autre chose. Un jour Dieu dit il faut pas manger de porc. C'est mal. Et après il dit vous pouvez manger du porc, c'est bien maintenant. Ah oh, mais jamais quelque chose d'impur est rentré dans moi. Hey, Pierre, arrête de dire que c'est impur. Si moi je dis que c'est pur, c'est pur. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends? Je prie pour que tu comprennes. C'est pas par la connaissance du bien et du mal que tu dois être dirigé. C'est par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vienne à ton secours et au mien. Amen. Merci Jésus. Merci pour ces quelques paroles. Merci mon Dieu de bénir le cœur de chacun de ceux qui l'ont entendu. Amen et Amen.